Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue aux questions de Sophie. 24 novembre aujourd'hui, eh bien, toute une question parce que il n'y a même pas quelques heures, nous avions un tapis blanc plein de neige qui a duré ça pendant presque 15 jours où on n'était vraiment pas préparé à cette neige. Un petit redoux, histoire de nous faire un petit peu de bien aujourd'hui, mais ça va commencer bientôt et recommencer. Et ça, pour 6 mois encore. Alors justement, êtes-vous prêt pour l'hiver? À tout point de vue. Au niveau de la santé, au niveau de la voiture, au niveau des vitamines. Et c'est ce qu'on va voir pendant 60 minutes. On aura nos spécialistes qui vont venir parler de ça au micro. Des questions de Sophie. Premier lieu, docteur Gaston Ostigui, pneumologue au Centre universitaire de santé McGill, sera avec nous dans quelques instants. On parlera avec Linda Gauthier, présidente du RAPLIC, regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Et puis, on ira avec Equiter, Annick Gérard, responsable des communications, sera avec nous. On parlera aussi du dossier de l'itinérance. Eh bien oui, ils sont là et il faut s'en occuper avec Manon Dubois, directrice des communications à la Maison du Père. Et notre coup de chapeau cette semaine sera Claudette Coulombe, directrice du regroupement des Popotes Roulantes. Alors, au niveau santé, comment se préparer pour l'hiver et pas se retrouver à l'urgence dès qu'il y a un petit froid ou un grand froid? Pour nous parler de ce sujet, c'est le docteur Gaston Ostigui, qui est pneumologue au Centre universitaire de santé McGill. Bonjour, docteur Ostigui.
Bonjour, madame Stanquet.
Alors, pour éviter les urgences, qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant pour vraiment être en forme pour les prochaines semaines et les prochains mois?
Bon, alors, il faut quand même regarder les facteurs de risque, ce qui encombre ce qui congestionne les urgences durant l'hiver, c'est souvent la période de l'influenza. Mm-hmm. Alors, j'espère que les gens qui ont eu l'occasion de se faire vacciner l'ont fait, parce que c'est surtout ces gens-là qui ont souvent des problèmes de santé connexes. Mm-hmm. Et s'ils font de l'influenza, eh bien, nécessairement pour eux, ça peut être assez dramatique. Alors, c'est certainement une mesure qui est valable. De mon expérience, à part ça, même si le vaccin contre l'influenza protège contre l'influenza, parce que ici au Québec, chaque fois que les gens sont malades, ils ont toujours la grippe, hein, tout est de la grippe. Oui. C'est pas toujours de la grippe, mais je pense que la vaccination contre l'influenza augmente quand même le système, fouette quand même le système immunitaire et ça protège également contre d'autres infections.
Alors, c'est une bonne chose. Est-ce que, on parle du vaccin, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que c'est à tout âge? Est-ce que vous trouvez que c'est très important, même bon, chez les adolescents, est-ce qu'on peut le donner? Il y a plusieurs personnes qui me posent la question, mais est-ce qu'on, moi, je suis pas assez vieille ou je suis pas assez vieux, est-ce qu'il y a un âge pour ce vaccin-là?
Je pense que dans d'autres provinces canadiennes, on offre le vaccin à toute la population sans discrimination d'âge. Et souvent, moi, je me rappelle du temps où j'étais au collège, où en janvier ou février, on était obligé de fermer le collège parce que tout le monde avait l'influenza. Mmh. Alors, ceux qui amènent l'influenza à la maison, ce sont justement les gens qui sont d'âge scolaire. On l'offre actuellement aux enfants en bas de 6 ans, mais je pense qu'il devrait être offert à toute la population comme ça se fait ailleurs. Et à ce moment-là, on préviendrait grandement la dissémination de cette maladie-là. Mm-hmm. Et non pas l'offrir uniquement aux enfants en bas âge ou encore aux gens qui sont porteurs de maladies chroniques ou encore aux personnes âgées.
OK. Alors, une bonne chose, on va, si ce n'est pas déjà fait, Dr Ostigui, on s'en va pour avoir ce vaccin-là. Est-ce qu'il y a des effets secondaires quand on l'a, ce vaccin?
Il peut y avoir un peu de sensibilité locale. Ça dépend de la fragilité de chacun. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Oui, il peut avoir des malaises au site de l'injection. Mm-hmm. Mais à part ça, les gens peuvent... Quand les gens nous rapportent qu'ils ont eu l'influenza, que c'est 3 ou 4 semaines après l'injection, là, je pense que c'est une autre infection. C'est une autre infection virale ou bactérienne qui est survenue et non pas le virus de l'influenza. Mm-hmm. Les gens peuvent peut-être sentir quelques courbatures ou quelques un peu de fièvre, mais c'est très, très, très rare. Mm-hmm. C'est très, très, très rare. Habituellement, mis à part la sensibilité locale au site de l'injection, eh bien, il n'y a pas beaucoup de problèmes.
Alors, on évite les urgences, on a ce vaccin-là, et vous dites qu'il y a quand même de bons résultats, donc c'est quelque chose à faire, et vous le recommandez aussi à tous les âges. Maintenant, au niveau des vitamines, bon, ben, il y a des recettes de grand-mère, il y en a qui disent que, bon, dès qu'arrive le froid, il faut prendre, doubler notre dose de vitamine C. Qu'en est-il au juste? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qu'il faut manger? Et êtes-vous un adepte de vitamines plus fortes pour l'hiver?
Je pense que c'est bon pour les poissons de Saint-Laurent, ça.
Oui? Ah, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout un adepte.
Bon, écoutez, je pense qu'il y a eu, dans les années 60, le docteur Salk qui avait préconisé de prendre des vitamines C pour se protéger contre l'influenza et les infections mm-hmm. respiratoires. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a eu suffisamment d'études qui ont démontré et suffisamment d'expériences pour démontrer que ce n'était pas valable. En fait, les infections virales sont souvent transmises par contact humain. Mm-hmm. Et à ce moment-là, c'est bien sûr que chez les gens qui sont porteurs d'une infection virale, il ne faut pas faire exprès pour s'exposer à d'autres personnes pour mm-hmm. les contaminer. Mm-hmm. Mais encore là, vous savez, des fois, on n'est pas toujours très logique dans nos attitudes. Bon, il faut se laver les mains, il faut prendre beaucoup de précautions, et ensuite, on s'en va dans le métro, et tout le monde tient la barre de métal du main, là.
Bien, oui. Oui, métro. Tout à fait.
Alors, non, il ne faut pas exagérer, là. Je pense que il y a des gens, quand même, qui sont plus susceptibles, et qui, s'ils font l'influenza, vont avoir plus de problèmes que les autres, ce sont mm-hmm. les fumeurs. Mm-hmm. Bien sûr, c'est sûr que quand on est un fumeur, on diminue nos mécanismes de protection au niveau respiratoire.
Mm-hmm. Et pourquoi on a l'impression que les microbes nous guettent en hiver, qu'ils sont là plus présents, puis on est plus malade? C'est pas une impression, là, vous le disiez aussi, les urgences sont congestionnées. Mais pourquoi plus en hiver qu'en été?
Ça, c'est une bonne question. On a souvent accusé le froid. Mais si on regarde les populations nordiques, autochtones, eh bien, ils sont pas plus susceptibles aux infections virales que les gens. Mm. Je pense que c'est une question de promiscuité. Probablement que la meilleure explication à tout ça, mais encore là, elle est peut-être pas très, très scientifique ou très épidémiologique, c'est qu'en hiver, on passe plus de temps dans des milieux confinés, on passe plus de temps à l'intérieur de maisons, donc on a plus facilement des contacts avec les autres personnes.
Mm. Okay.
Que durant l'été où oui. les fenêtres sont ouvertes puis on se promène à l'extérieur. Uh-huh. Alors c'est le rapprochement des individus qui serait probablement la cause principale de l'augmentation des infections virales et des infections respiratoires durant l'hiver, durant uh-huh. les temps froids.
Autrement dit, les microbes restent en dedans.
Il reste en dedans, il reste oui dans la maison. Dans les écoles ou dans les lieux publics.
C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait, docteur Rostigui, une fois qu'on l'a, là, on l'a attrapé, là, on est congestionné, on a mal à la tête, on se trimballe avec une boîte de Kleenex. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a, cette influenza?
Bon, à part d'un traitement purement symptomatique, parce que vous savez, on n'a pas de produits qui sont très spécifiques contre les virus et contre le virus de l'influenza. Il y en existe dans une épidémie d'influenza, il existe certains médicaments qui sont spécifiques pour traiter le virus de l'influenza, mais c'est assez, comme habituellement, pour les gens qui n'ont pas de problème de santé sous-jacent, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent s'en sortir facilement. Comme on dit, un rhume, ça dure 7 jours, puis une grippe, ça dure une semaine. Alors, mais si on a quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui a l'influenza, qui est bien documenté, qui a une santé qui est fragile, mm-hmm. et bien à ce moment-là, il pourrait consulter son médecin, mais il se fait prescrire des médicaments qui sont spécifiques pour lutter contre le virus de l'influenza. Mais malheureusement, il faut à ce moment-là que les gens prennent ce médicament-là dans les 24-36 heures du début des symptômes.
Okay.
Et les autres choses à faire, bien, c'est tout simplement de se traiter de façon symptomatique avec de l'acétaminophène, du Tylenol, pour combattre la fièvre et les courbatures. Mm-hmm. Mais des fois, j'ai vu des gens dire, écoutez, il faut bien s'hydrater quand on a l'influenza. Moi, je me rappelle d'avoir vu à l'urgence des gens, justement, qui avaient attrapé l'influenza, mais c'était des grands cardiaques. Alors, ils s'étaient bien hydratés, mais là, on les a reçus à l'urgence en édème pulmonaire. Alors, ça aussi, il faut faire attention. Là. Ouais. Des règles générales comme ça qui s'appliquent à tout le monde, eh bien, il faut connaître son état de santé sous-jacent avant de se lancer.
Alors, les microbes se promènent bon, à l'intérieur de nos maisons. Maintenant, nous, la façon dont on s'habille, est-ce que c'est encore une histoire de grand-mère ou de grand-père? La tête protégée, la gorge protégée, les pieds bien au chaud, est-ce que ça fonctionne toujours?
Moi, je pense que c'est de prudence minimale, mais encore là, quelle est l'évidence scientifique derrière tout ça? Là, on n'en a pas.
La médecine, c'est une science inexacte, finalement. On apprend toujours, tous les jours.
Oui, mais écoutez, je pense que c'est la transmission des infections respiratoires, particulièrement les infections virales, ça se fait par contact humain.
Mm-hmm.
Par contact humain. Et alors, c'est ça qui est le plus important.
Est-ce qu'il y a une façon de remonter son système immunitaire pendant cette période de froid? Il y en a qui mangent de la nourriture confortable, qui ont envie de plus de soupe que de salade. Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut aller chercher davantage? Parce que, bon, vous nous avez parlé de vitamine C. Au niveau concret, il n'y a vraiment pas de preuves scientifiques que ça fait quelque chose. Mais au niveau de notre nutrition, on dirait qu'on est porté plus à manger du chaud. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut mettre davantage dans notre menu?
Je pense qu'il n'y a aucune évidence scientifique pour justifier de telles attitudes. Une bonne alimentation, c'est toujours recommandé pour tout le monde et en tout temps, mais de là à ce qu'on doit le faire de façon plus spécifique à l'occasion des périodes d'hiver ou des périodes d'influenza, on n'a pas d'évidence à cet effet-là, non.
Non, il n'y a rien de...
Rien de documenté.
Autre, l'influenza, qu'est-ce qu'on a comme maladie pendant l'hiver qui ressort à ce moment-là? Qui engorge les urgences?
Bien souvent, ce sont des infections virales assez banales. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres virus, à part du virus de l'influenza? Il y a les adénovirus, il y a le virus Coxsackie, le cytomegalovirus, particulièrement chez les enfants. Mais encore là, il n'y a pas de traitement spécifique pour ces virus-là. Ce dont il faut se préoccuper, eh bien, ce sont les infections bactériennes, la pneumonie. Et la cause la plus fréquente de la pneumonie, c'est le pneumocoque. Mais ça va répondre très bien aux antibiotiques en général.
Est-ce que la pneumonie peut être une résultante du fait de pas soigner justement un rhume et puis finalement ça se détériore? Est-ce que ça peut être ça?
Oui, là, vous avez un excellent point, vous avez bien raison. Une infection virale, à ce moment-là, diminue les mécanismes de protection qu'on a au niveau respiratoire. Et puis, à ce moment-là, ce qui facilite à ce moment-là la contamination par des bactéries. On est tous un peu plus ou moins porteurs de bactéries. On s'en défend très bien habituellement.
Mm-hmm.
Mais si à la suite d'une infection virale, particulièrement de l'influenza, eh bien, nos mécanismes de protection pulmonaire, eh bien, sont diminués, à ce moment-là, les bactéries vont prendre le dessus. C'est à ce moment-là qu'on peut développer une pneumonie. Alors, un influenza qui va durer plus que 5 ou 6 jours à ce moment-là et qu'on continue à être malade, fiévreux, particulièrement si on a de la toux, des expectorations, des douleurs thoraciques, de l'essoufflement, eh bien, à ce moment-là, je pense plus consulter parce que ça pourrait justement être le début d'une pneumonie.
Oui,
ça peut être très bien traité.
Oui, mais si c'est pris à temps, hein? Mais avec les antibiotiques.
Les antibiotiques, oui.
D'accord. Mais merci beaucoup, docteur Gaston
Guy. Ça me fait plaisir, madame Stiggy.
Gaston Stiggy, merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Pas de mes amis qui ont pas la grippe cette année. Tous les magasins de Kingston, ils font de l'argent comme de l'eau. Des mouchoirs, c'est à douzaine pour ceux qui ont le rhume de cerveau. Tilida, hitcha, tilia dilididam, tilida, hitcha, tilia dilididam, tilida, tilia dilididam, tilia dam dilidouli, tilia dam dilidoum, tilia didam. Ça commence par un frisson, puis ensuite vous éternuez. Là, vous l'avez pour de bon, c'est le temps de vous faire soigner. Un petit gin, puis du citron, avec ça vous allez suer. Évitez les courants d'air pour pas mourir les pattes en l'air. Tilida, Til-da-dee-dee-dee-dum, til-da. Til-da-dee-dee-dum, til-da. Til-da-dee-dee-dum, til-da-dum, til-da-dee-dee-dum. Si vous venez qu'à empirer, frottez-vous avec l'huile camphrée. Si vous avez mal au cœur, prenez une ponce de painkiller. Si vous avez peur de la mort, prenez une dose d'huile de castor. Avec tous ces conseils-là, vous n'aurez pas l'influenza. Tilida, atcha, tilida, dilididam, tilida, atcha, tilida, dilididam, tilida, atcha, tilida, dilididam, tilidam, dilididididam, tilididididum. Moi pis mon mari, on est allé faire du ski. Puis rendu au Mont-Tremblant, il faisait froid, c'est effrayant. J'avais la face comme une forçure, puis le bout du nez, je l'ai dur. Je vous dis que c'est pas rose quand on a un brin des noses. Tilida, atcha, tilida, dilididam, tilida. S'habiller bien chaudement si on veut pas attraper ça. L'hiver c'est un mauvais temps pour les rhumes d'estomac. Dans le mois de février, la plupart ils sont grippés. Mais rendu au mois de juin, d'autres attrapent la fièvre des foins. Tilida, tilida, dilididam, tilida, tilida, dilididam, tilida, tilida, dilididam, tilidam, dilida, dilidam, dilididu, dilididum.
Ça va bien avec notre sujet d'aujourd'hui. Geneviève Bilodeau, vous êtes nombreux à nous écrire. Eh bien oui, aujourd'hui, la neige a fondu, mais ça repart de plus belle. Alors, il y en a qui ont trouvé drôle notre question, mais vous savez que ça se prépare, hein, quelques jours, et puis cette blancheur reviendra. Alors, vos commentaires, vous pouvez nous écrire sur Canal M, Twitter, et Claudia Benoît est là pour me remettre vos commentaires en studio. Elle vient pendant 60 minutes, elle est là, elle regarde, elle lit, et elle vient en studio. Alors, Sienna Trigani nous dit « Je suis prête pour l'hiver, mais je pense qu'il a commencé trop tôt cette année. » Céleste me dit bah, « C'est plus l'hiver qui ne semble pas prêt, c'est plutôt l'hiver qui semble pas prêt. Bon, » quand on regarde la journée d'aujourd'hui, c'est ça. Carole Tremblay dit « Aujourd'hui, printemps, hihi. » Et elle dit « Lorsque tu demeures à la campagne, tu es prêt tôt versus les grandes villes. » Ça, c'est pas mal vrai. Hein? Et elle poursuit, même chose ici à Hamilton, en Ontario, il fait très beau aujourd'hui. Carole Tremblay dit « Je pense que c'est tout de même exceptionnel ce temps froid et cette neige de novembre. La première neige fond toujours. » Et Serge Ouellette dit « Bonne question Sophie, je suis toujours prêt, mais pas mentalement. » Et ça, c'est vraiment un aveu que plusieurs font. « Je déteste l'hiver. » Et ça, c'est donc Monsieur Ouellette qui dit ça. Si vous êtes nombreux à détester l'hiver, ben, il faut en général essayer de faire en sorte d'aimer l'hiver. Je vous dirais, avant tout, s'habiller confortablement, parce qu'il n'y a rien de pire que d'attendre et de geler sur le trottoir quand on attend le bus, spécialement ou autre. Bien chaussé aussi, c'est chouette l'élégance, mais parfois il faut laisser l'élégance de côté et pas avoir les orteils gelés, on se comprend bien. Avoir des bottes assez chaudes et puis jouer, s'amuser dehors le plus possible, parce que c'est ce qui fait qu'on aime l'hiver aussi, d'essayer d'y aller avec ça. Bon, c'est pas toujours facile, mais puisqu'on l'a l'hiver, il faut en profiter. Et je vous dis que l'histoire d'être bien habillé, ça fait toute la différence. Moi, j'ai un ami qui déteste ça, un chanteur extrêmement connu. Il m'a dit « Sophie, je déteste. » Je dis « Mais oui, tu peux bien détester l'hiver. Regarde comment t'es habillé. T'es habillé comme au printemps. » Et moi aussi, je détesterais avoir froid. Et depuis ce temps-là, il est allé magasiner, on est même allé ensemble. Et puis, il dit « Ouais, bah, c'est plus le fun. » Ben ouais, il ne pouvait même pas marcher avec moi, faire un coin de rue. ça commence comme ça, là. Essayez de bien vous habiller. Puis, on dirait qu'on refuse. On refuse de mettre les bottes, on refuse de mettre les manteaux parce qu'on se dit « Ça va éloigner l'hiver. » Mais ça ne marche pas comme ça. Alors, on va tout de suite à notre prochaine invitée. Et c'est pas évident, justement, l'hiver, pour ces périodes-là, pour les gens qui sont donc à limitation fonctionnelle. Mobilité réduite, pour se déplacer, il faut prévoir beaucoup, beaucoup en avance. Et Linda Gauthier, présidente du RAPLIC, regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, est avec nous. Bonjour Linda Gauthier.
Bonjour Sophie.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci, vous?
Oui, alors justement, est-ce que vous aimez l'hiver, Linda?
Je déteste l'hiver.
Bon, alors, est-ce que sans doute, pour quelle raison, avant qu'on commence dans le vif du sujet du transport et tout ça, pourquoi vous n'aimez pas ça?
Ben, premièrement, j'ai toujours détesté, même avant le handicap. Alors, c'est pas nouveau, mais ça l'a amplifié depuis que je suis en fauteuil roulant.
Ouais.
La mobilité réduite, en fait, parce qu'avant le fauteuil, j'ai eu un déambulateur et la canne et tout, mais en fauteuil roulant, ben, c'est, écoutez, la neige, on passe dans tellement peu de neige et Montréal est si mal déneigé.
Mm-hmm.
Je dirais que, comme je disais à la conseillère qui est responsable de l'accessibilité dans mon arrondissement, qui est le Château-Mont-Royal, les trottoirs sont déneigés comme une claque sur la gueule.
Oh ouais, c'est ça. C'est vraiment ça.
C'est...
Ouais, alors, les obstacles, Linda Gauthier, vous en avez, ainsi que les autres personnes. Racontez-moi, donc là, vous me dites, au niveau des trottoirs, c'est nul, hein, c'est ça?
C'est nul. Et pourtant, si je prends encore l'exemple du plateau, les pistes cyclables, c'est comme le plancher de la cuisine chez moi, là.
Ouais,
pourtant, les trottoirs sont glacés ou enneigés, c'est pas croyable. Il y a des buttes de glace, de neige, des monticules, c'est incroyable. Mais les pistes cyclables, ça, c'est, écoutez, numéro un.
Mm.
Alors, il y a ça, il y a le froid, bien évidemment, on bouge pas, nous, hein. Alors,
mm-hmm.
On peut pas se permettre d'attendre l'autobus, parce qu'on peut prendre l'autobus régulier, bien sûr. On peut pas se permettre d'attendre et que les rampes, les autobus nous passent devant nous et que les rampes ne sont pas fonctionnelles souvent.
Mm-hmm.
Des fois, on en attend 2-3, alors on gèle pendant ce temps-là parce qu'on bouge pas.
2-3, vous dites 2-3 avant d'avoir votre place.
Ah bon, oui.
Ça, c'est...
Oui.
C'est incroyable ce que vous me dites
c'est
là.
C'est incroyable.
Et au niveau du transport adapté, où je vous vois souvent téléphoner parce que, bon, on est à la radio, vous venez nous rendre visite. Est-ce que ça veut dire que c'est des minutes qui s'ajoutent une fois que l'hiver est là ou ça ne change rien?
Ah, mais non, ça... Écoutez, même qu'on a des motifs approuvés en transport adapté pour l'hiver, il y a les motifs travail, études, médicales et loisirs. Alors, quand il y a une chute de neige importante ou grisée ou quoi que ce soit, on annule d'emblée le motif loisir.
Bon.
Alors, c'est donc dire que si moi, j'ai un spectacle à la Place des Arts pour aller voir quelqu'un, que j'ai payé 200 $ un billet, on va peut-être me favoriser, sauf que la personne qui va faire son épicerie va entrer aussi dans le motif loisir et elle ne pourra pas y aller.
Ça, c'est inadmissible, ça.
Ça,
vous me dites qu'elle ne pourra même pas se nourrir convenablement. Parce
non,
que c'est un loisir. C'est manger, c'est un loisir. Mais
oui,
sinon...
oui, ça rentre dans le motif choisir, si elle veut, parce que forcément, elle va prendre souvent le transport adapté pour aller s'acheter des trucs, là, 2-3 sacs d'épicerie ou des choses comme ça.
Mm.
Et malheureusement, elle ne pourra pas y aller avant que ce soit relativement bien déneigé, parce que il faut que le haillon puisse s'abaisser. Hein.
Il faut que
le déneigement soit effectué. Hein.
Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du fauteuil? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre quand arrive l'hiver? Est-ce que il y a des transformations pour entretenir? Est-ce qu'il y a des précautions?
Bien, des précautions. Il ne faudrait pas sortir vraiment. C'est kamikaze de sortir, moi, je dirais, en bas de moins 15, moins 18, parce que les batteries sont quand même c'est dangereux pour que gèle. Hein? Alors, à ce moment-là, on tombe en panne.
OK. Donc, à moins 15, moins... Donc, ça veut dire que quand arrive l'hiver, je comprends que vous détestiez ça, ça veut dire que finalement, la vie sociale, on oublie ça?
Ben, où on attend, où on semble d'une patience extrême voir friser la santé mentale avec le transport adapté, finalement, c'est ça. Parce que, écoutez, on peut pas se permettre de sortir comme ça par la rue, rouler pour aller d'un point A à un point B. C'est trop dangereux s'il fait froid, hein.
Alors, donc, là, ça veut dire que vous êtes un peu seul, la solitude pendant l'hiver, parce que c'est dangereux. Quelles sont les mesures que le gouvernement ou la ville, d'après vous, devrait prendre pour vous faciliter la vie? Parce que là, on voit que même faire son marché, ça, c'est dans la catégorie loisirs, c'est épouvantable, ça. Ouais. Mais quelles sont les mesures que la ville devrait adopter?
Bien, premièrement, la STM étant un organe paramunicipal, bien, écoutez, je pense qu'ils devraient se parler, OK, les deux, la ville et la STM. Mmh. Le déneigement devrait être fait, devrait être assuré. On dit, bien, on ne peut pas tout faire en même temps. On le sait, mais mon premier conjoint, moi, était entrepreneur en déneigement et il déneigeait les artères transversales parce que pour se rendre aux artères principales comme Mont-Royal ou Boulevard Saint-Joseph, forcément, il faut emprunter les artères transversales. Alors, en déneiger peut-être à toutes les cinq artères, ce serait déjà quelque chose de sensé. Comme c'est là, bien souvent, on attend 6 à 7 jours pour déneiger ces artères-là. Ça serait de refaire les routes, de penser gros bon sens, et puis de faire une coordination aussi, de coopérer les deux, la STM et la ville ensemble. Là, on dirait qu'ils ne se parlent pas.
OK. Il n'y a pas du tout de discussion à ce niveau-là.
Absolument pas. Et c'est malheureux parce que nous, on doit hiberner souvent les 5-6 jours à la maison.
Et Linda, est-ce qu'il y a un circuit que vous faites, un carnet de notes en disant, bon, moi, si je vais à cet endroit-là, parce que j'imagine que vous devez fonctionner comme ça, ben, ça va être dégagé, j'ai aucun problème, même des lieux de rencontre avec vos amis où vous pensez de cette manière-là?
Ben, moi, je prends même pas de chance parce que en transport adapté, il faut assurer que notre endroit d'embarquement est dégagé et déneigé et l'endroit où ils vont nous débarquer l'est aussi. Okay. Et ça, on peut jamais prévoir si ça l'est vraiment. Et quand on arrive là-bas, ben, on sait pas s'ils nous retourneront pas. Parce que c'est pas déneigé, ça fait pas partie de leur convention collective, eux, de déneiger. Je comprends jusqu'à un certain point. Alors, souvent, on prend pas de chance. D'appeler là-bas à savoir si c'est fait, je l'ai déjà fait, puis je suis arrivée là-bas, puis c'était pas déneigé quand même. Fait que c'est vraiment là, je vous jure, on est frustrés du matin au soir. Mm. Alors, on reçoit chez nous si on veut voir du monde. Mm. C'est aussi bête que ça, là. C'est vraiment déplorable, mais écoutez, moi, je sors tellement peu l'hiver. J'en profite pour mettre beaucoup de dossiers à jour parce que je peux pas me permettre de sortir beaucoup. Puis je pense que c'est la même chose pour la.
Donc, le message est clair. Il faut absolument s'en occuper, faire en sorte que vous puissiez sortir l'hiver et non seulement les 3 autres saisons. Merci, Linda Gauthier.
Je vous remercie, Sophie.
Merci. Au revoir.
Vous écoutez les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
On va tout de suite avec notre prochaine invitée. Vous savez que c'est toujours à l'année qu'il faut se responsabiliser pour au niveau de l'environnement. Et en ce moment, l'hiver va débuter. Est-ce qu'il y a des gestes à faire? Est-ce qu'on peut faire en sorte d'être plus responsable, d'économiser également? Alors, on a Annick Gérard, responsable des communications chez Équiterre, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Madame Gérard.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien, merci vous-même.
Oui, alors l'hiver est à nos portes. Comment on fait pour économiser au niveau de l'énergie, par exemple, au niveau de l'électricité? C'est quoi les trucs? Comment on peut faire? Parce que c'est toujours vraiment une facture salée à la fin et on se dit, il y a des choses à faire.
Oui, bien écoutez, il y en a plusieurs à faire. Équiterre, en fait, on propose chaque mois un geste du mois qu'on appelle. Ce mois-ci, c'est justement comment faire attention, en fait, comment hiverner efficacement son chez soi. Donc ça, c'est sur notre site Internet, c'est de ça que je peux vous parler un peu.
Oui, allez-y.
En gros, c'est important de s'attaquer surtout à la portion chauffage de notre domicile parce que c'est vraiment là où on dépense le plus, en fait, où on consomme le plus d'électricité.
Exact.
Puis, même par rapport à d'autres pays au monde qui ont un climat similaire, c'est vraiment la portion à laquelle on doit s'attaquer. Mm-hmm. Donc, quoi faire? Premièrement, c'est d'analyser la situation. En fait, vraiment, il faut se poser la question, est-ce qu'on a le bon système de chauffage pour notre domicile? Les domiciles ne sont pas tous les mêmes et il y a des systèmes qui sont plus performants que d'autres par rapport aux réalités de notre demeure. Donc ça, je pense que en fait, c'est la première chose à faire. Donc, pour avoir de l'aide, il y a l'Office d'efficacité énergétique qui, justement, nous donne des conseils à ce sujet.
Mm-hmm.
Ensuite, il faut vraiment en fait faire un entretien annuel de notre appareil. C'est pas seulement on chauffe, tout va bien.
Oui.
Des fois, il faut aussi vérifier que tout est correct. Il y a différentes choses à faire, comme faut purger son système de chauffage. Il y a aussi faut le nettoyer à chaque fois qu'on le part. Donc des petits gestes comme ça.
Mm-hmm.
Mais aussi des fois d'autres choses qui sont très simples, comme regarder est-ce que les plaintes de chauffage sont obstruées, est-ce qu'il y a un meuble devant qui fait en sorte qu'il n'y a pas une bonne circulation de l'air chaud dans notre pièce. Donc ça, c'est très important, puis même ça peut être à la limite dangereux,
mm-hmm,
quand il y a obstruction. Aussi de vérifier nos thermostats, est-ce qu'ils sont tous programmés à 30 degrés, c'est beaucoup trop chaud.
Oui, c'est ça.
Donc,
c'est les Bahamas, là.
Mais c'est ça, donc je pense, okay, qu'il faut vraiment avoir une température adéquate. Normalement, mm-hmm, on conseille autour de 20-21 degrés, mais le soir, on peut baisser. En fait, il y a beaucoup de systèmes dont on peut justement programmer aux différentes périodes de la journée. C'est très important de le faire quand, mm-hmm, c'est possible, parce que les gains là au niveau de l'économie du chauffage seront visibles et importants.
C'est ça. Donc programmer, si la personne n'a pas ça, mais s'assurer de s'acheter ce qu'il faut pour le programmer quand elle est pas là le jour, descendre ça, puis le soir quand elle est là, le remonter, par exemple, c'est ça?
Exactement, oui, tout à fait. Ou on peut à la limite le faire manuellement. Mm-hmm. Ou si on n'a pas ce type d'appareil-là, ben vraiment là, le baisser quand on part plusieurs jours. Donc,
okay,
ça peut facilement être fait.
Okay.
Sinon, mais écoutez, vraiment, je pense qu'il faut absolument éliminer les infiltrations d'air dans son domicile. Donc, il peut y avoir des petites infiltrations sur lesquelles on peut agir concrètement.
Ça, on fait venir quelqu'un pour ça?
Bien, c'est ça. Pour les petites infiltrations, non, il faut simplement les identifier. Souvent, là, on peut y aller soit avec un briquet, une chandelle, puis quand on voit que ça bouge là, près des plaintes, okay, près des fenêtres, c'est qu'il y a infiltration. Donc,
okay,
là, on peut calfeutrer soi-même. On peut aussi mettre des coupes froides. Mais là, quand il s'agit de plus grandes infiltrations, comme par exemple si on voit que nos fenêtres sont à changer, que les murs carrément, que la maison n'est pas isolée, mais là, oui, je pense que c'est plus sage de faire affaire avec un professionnel. Mais là encore là, il y a de l'aide. Pour ça, il y a le programme Réno Climat qui peut nous informer. Il faut aller visiter le site Internet pour en savoir plus. Il y a aussi Éconologie, qui est un programme pour foyers à faible revenu. Il y a même une personne qui peut venir gratuitement faire la pose là, de coupe froid ou calfeutrer aussi et faire comme un diagnostic complet.
Bon.
Là. Donc, ça, c'est très pratique.
Et qui essayera pas de vous vendre quelque chose?
Non.
Voilà.
Pas nécessairement.
Non, c'est important parce que souvent, c'est ça aussi, les gens hésitent. Ils se disent, bon, on va appeler quelqu'un, spécialiste, mais là, il veut me vendre plein d'affaires en sortant.
Oui, non, il ne faut pas s'en faire avec Éconologie, c'est vraiment fait pour aider.
Très bien.
Puis, il y a plein d'autres petits gestes. Donc, en fait, quelque chose de très concret que j'aime bien dire, là, c'est qu'il faut utiliser l'aide naturelle du soleil. Donc, quand vraiment il fait beau, gros, grand soleil, on ouvre nos rideaux, on laisse rentrer les rayons du soleil qui aident à chauffer notre demeure. Donc,
mm-hmm,
ça, c'est vraiment tout simple. Puis aussi, maintenir un taux d'humidité normal. Donc, normal, c'est entre 30 et 50 % en hiver. Puis pour ça, ben tout simplement, d'avoir normalement un ventilateur dans la cuisine pour la hotte de cuisine et dans notre salle de bain. En plus d'aérer 5 minutes par jour, on devrait y arriver.
Bon, ben c'est très bien. Alors, on a tous les trucs sur votre site.
Oui.
Au niveau des chauffages, j'imagine, qu'est-ce que vous faites, des comparaisons, gaz, électricité, ce qui est mieux ou...
En fait, ça, c'est l'Office de l'efficacité énergétique qui,
d'accord,
fait cette comparaison-là. Donc, sur notre site, on a un lien direct vers cette ressource-là. Puis, il y a aussi d'autres petits trucs là, qui sont à la portée de la main de tous, là, qui sont sur notre site Internet. Donc, c'est www.équitaire.org.
Bon, ben merci beaucoup, Annick Girard.
Ça fait bien plaisir. Merci à vous.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
d'un exemple.
Alors, on poursuit tout de suite avec notre émission « L'hiver est à nos portes ». Êtes-vous prêts? Section itinérance. Je vais vous dire, mesdames, messieurs, je vais raconter une anecdote. À un moment donné, je m'en vais passer une audition. Fait moins 20 dehors. Je vais sur Sainte-Catherine. Et là, je vois une personne, avant d'aller à l'audition, qui est juste à côté sur le trottoir. Je me dis, mais c'est pas possible. On est obligé de courir tellement il fait froid. La personne n'a pas de manteau ni rien. Je vais passer mon audition, il y a du monde, tout le bottin de l'Union des artistes. Je ressors. À l'intérieur de moi, pendant toute l'audition, je me disais, si ce jeune homme est encore là, je vais m'en occuper. Et je souhaitais que cette personne soit là. Pas parce que je voulais qu'il continue à geler, mais tout simplement pour l'aider. Je reviens, il est encore allongé. Il est 9h du matin, il fait moins 20. Pas de manteau ni rien. Je me suis arrêtée, je suis allée le voir. J'ai pris mon manteau puis je lui ai donné. Puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Il est parti et je l'ai aidé. Et je l'ai rentré dans un café parce qu'il n'avait pas mangé non plus. Il avait à peine 18 ans. Ça, c'est des scènes, là. Il y en a à Montréal, beaucoup. Madame Dubois, directrice des communications à la Maison du Père, est avec nous. C'est des scènes, Madame Dubois, qui arrivent souvent, malheureusement, où il y a des gens, l'hiver arrive, c'est pire. C'est épouvantable de rester comme ça. Puis nous sommes gâtés, sortant sur le trottoir, disant « Ah, il fait froid, puis on a eu notre aventure. » Mais vous, c'est le quotidien, c'est ces gens-là que vous fréquentez.
Oui, c'est ces gens-là qui viennent demander le refuge chez nous. Donc, il y a 170 hommes à chaque soir qui viennent à nos portes. Puis on tente, à chaque saison, on doit se préparer pour faire en sorte qu'ils aient les vêtements qui conviennent à la saison. Parce que l'été, il faut également changer les vêtements, les équiper. Donc, il y a deux semaines, tous les hommes qui étaient au refuge au cours de la semaine ont reçu des bottes, des manteaux.
Bon. Parce qu'ils partent rien, là. Comme moi, le jeune homme que j'ai rencontré, il n'y avait rien, là. Moins 20, il y avait ses runnings. Puis, donc, ces 170 hommes que vous accueillez...
C'est plus que 170 parce que ça roule. Puis il y en a dans les autres refuges également, là.
Ouais.
Donc, on peut parler à chaque soir à peu près ces 100 hommes là, qui viennent. Ben ça, je parle d'hommes de 25 ans et plus, parce qu'il y a les jeunes également, donc que c'est les refuges des jeunes qui s'occupent d'eux. Donc, plusieurs hommes, femmes, enfants qui ont des problématiques d'itinérance et qui ont besoin de soutien, entre autres en vêtements. Mais en vêtements,
C'est une partie. Là, vous avez commencé il y a deux semaines. Vous avez vos dons où? Est-ce que ça arrive? Parce que là, c'est sûr, c'est les bottes. Les bottes et les manteaux chauds.
Oui.
Il faut que ça soit relativement neuf aussi, là, je veux dire.
Oui, bien, c'est les dons du public.
OK.
Donc, il y a plusieurs dons qui sont faits à chaque saison, les gens, c'est une habitude de la maison à 45 ans cette année. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont pris cette habitude lorsqu'ils refont leur garde-robe et ils nous amènent leurs vêtements. Et nous, on stocke les vêtements de saison à saison, puis on fait du troc avec les hommes lorsqu'on change de saison, donc leurs manteaux d'automne sont échangés contre les manteaux d'hiver et on va les garder pour la saison prochaine, donc il y a toute une logistique pour avoir ça. Il y a comme par exemple une compagnie qui fait des bottes, vous savez, les bottes de construction qui nous a donné plus de 300 paires de bottes pour l'hiver. Donc, c'est des gestes comme ça là, qui sont importants pour nous.
Allez-y, pluguer leur nom, parce que moi, ça ne me dérange pas. Des gens qui donnent, ça ne me dérange absolument pas.
J'ai pas de langue, je sais que c'est tricot quelque chose.
Voilà, tricot quelque chose, merci mille fois. Est-ce que ça ressemble à ça? C'est-à-dire que ces gens-là, en général, c'est la dernière chose dont ils pensent. ils n'ont pas les moyens, mais de s'habiller.
Mais c'est pas juste le moyen, il y a aussi plusieurs d'entre eux ont des problématiques de santé mentale.
C'est ça. Exactement.
Des problématiques
ils ressentent pas le froid non plus, c'est ça.
Ils ressentent pas le froid, sont désorganisés, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils n'auront probablement pas le réflexe d'essayer de trouver un refuge ou des personnes pour l'aider. À ce moment-là, on a l'importance de la navette qu'on a entre les trois refuges et les refuges pour femmes également. Là, mais comme la semaine prochaine, les organismes dont les trois refuges, l'accueil Bonneau, les polices, la ville de Montréal, le groupe itinérance du C3S Jeanne-Mance vont se rencontrer pour déterminer quel sera le trajet de la navette, parce qu'il y a une navette qui va se promener tout au cours de l'hiver pour s'assurer, essayer de des gens qui sont à l'extérieur et qu'on va essayer d'entrer à l'intérieur.
OK, mais c'est une seule navette?
Oui, ça suffit.
Pour tout
ça
Montréal.
Suffit parce qu'on les réfère, comme je vous dis, les hommes connaissent les aires de refuge et tout ça. Donc, okay. Comme à la Maison du Père, on a 170 lits. Les deux autres, Oldbury Mission, Mission Bon Accueil, ont 200 quelques lits également. Donc, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas rentrés. Là,
OK, mais il faut dire, Mme Dubois, qu'ils sont là seulement pendant la nuit. Le jour, ils sont dans les rues.
Oui, c'est à partir de chez nous, c'est à partir de 14 heures habituellement. Okay. Toutefois, avant 14, si jamais il y a des grands froids, on peut les faire entrer un peu plus tôt. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a des organismes des centres de jour, comme l'accueil Bonneau, comme le pas de la rue. Donc,
ils peuvent avoir un peu plus chaud.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment des services d'accompagnement. Et c'est pas juste comme le pas de la rue, c'est pas juste qu'ils font en sorte. Puis l'accueil Bonneau, c'est la même chose. Ce n'est pas seulement pour que les personnes aient chaud. Il y a des intervenants qui sont là pour essayer de leur parler, essayer de voir comment ils pourraient les aider, les référer à des ressources. Si on parle de santé mentale, mais de les référer à ces ressources-là.
Tout à fait, leur donner le relais qui convient.
C'est ça, parce que les accompagner.
Parce que c'est de plus en plus difficile au niveau de la ville. Ils ont mis cette espèce de pic de la honte. Là, ils ne peuvent même plus se coucher.
C'est encore plus loin que ça, la problématique. Parce que quand la personne est complètement désorganisée, elle a vraiment besoin du soutien des intervenants, de tout le milieu.
Parlez-moi justement de la navette qu'on va voir, parce que moi, je me pose la question, et comme plusieurs personnes, quand on voit quelqu'un, par exemple, ça va arriver, on est aux portes de l'hiver, aujourd'hui on a un redoux, on est content, mais dans quelques jours, on va avoir encore frappé les moins 20. Si moi je vois, ou quelqu'un d'autre voit quelqu'un qui est dans la rue sans manteau, la première chose, c'est 911, c'est votre navette, comment ça fonctionne?
Bien, vous pouvez appeler. Bon, les policiers sont là. L'équipe Emery, encore, entre autres, fait des tournées. Là, on sait à peu près où sont les gens. L'équipe Emery, c'est constitué de policiers sont avec des travailleurs sociaux et qui sont spécialisés avec les personnes. Là, ils comprennent bien comment les approcher et tout ça. Donc, en communiquant avec les policiers, bien, ils peuvent peut-être venir voir là, s'ils peuvent aider la personne. Mais souvent, la personne, pas souvent, mais ça peut arriver que la personne ne veuille pas. Faut aussi dire que dans les refuges, il y a certaines restrictions au niveau quand la personne, elle a trop consommé et tout ça. On ne peut pas les accepter. Il faut comprendre que, comme à la Maison du Père, on héberge 300 hommes par soir. Si on tient compte de nos... donc, on ne peut pas se retrouver avec des personnes qui... déjà là, on a des personnes avec des problématiques de santé mentale. Donc, on ne peut pas non plus se retrouver avec des personnes très intoxiquées. Toutefois, il y a l'Exode. C'est un organisme qui, sur la rue Clark, qui reçoit, qui a les outils nécessaires et le personnel nécessaire pour recevoir les personnes qui sont en état d'intoxication.
Alors, donc, vous me dites, la semaine prochaine, il va y avoir quand même une voiture qui va se promener dans les rues de Montréal pour dire, s'il y a quelqu'un, pour dire que vous existez?
Bien, il y a déjà, c'est déjà convenu entre toutes les ressources. Donc, c'est à partir de la semaine prochaine, ils se rencontrent pour déterminer les horaires exacts, l'itinéraire et tout ça. Si je prends l'itinéraire de l'an passé, par exemple, c'est Oldbury Mission qui est comme responsable de la navette. La navette a compté de 19 heures, parce que, comme je vous l'ai dit, à la Maison du Père, on ouvre les portes à compter de 14 heures. Mais souvent, l'hiver, c'est rapidement là, à 15 heures, ça peut être plein.
Ben oui.
Donc, les hommes vont si les hommes peuvent aller directement aux autres refuges à pied, dépendamment de la température et de leur état, on va les référer avec l'adresse et tout ça aux autres refuges pour qu'ils puissent y aller. Mm-hmm. Une chose que j'aimerais mentionner, c'est que les trois refuges, entre autres, au niveau des hommes, parce que c'est ce que je connais le mieux, on tient des statistiques été comme hiver sur le taux d'hébergement, le taux d'occupation de notre refuge. Donc, on s'assure, le nombre de lits qu'on a suffit aux besoins.
Bon.
En 2011, à la Maison du Père, on a ajouté quelques lits parce que ça suffisait plus.
Oui, c'est ça, je lisais ça.
Mais on tient les statistiques.
Pour l'instant, ça va.
Mais c'est ça, il y a toujours des problématiques. Ben ça, il y a des bonnes nouvelles. Oui, on maintient, mais il y a encore des gens dans la rue parce que à cause de leur, comme je vous dis, ce n'est pas tous qui veulent venir ou qui ont les outils pour venir à cause des problématiques de santé mentale et tout ça. Sauf que, comme je vous dis, là, on tient des statistiques et on peut référer aux autres refuges. Et s'il y a débordement à cause vraiment d'une situation, ben c'est sûr qu'on va on va héberger ces hommes-là. Donc, à 19 heures, ce qui est convenu, s'il y a des gens surplus, bon, à 19 heures, la navette va passer chez nous. Elle va amener les gens soit à OBM, soit à Mission Bon Accueil. Il y a aussi la navette va aller voir dans certains métros, Berry, Atwater et tout ça.
C'est ça, dans les bouches du métro.
Le parc Émilie Gamelin. Donc, la navette va se promener jusqu'à 2 heures du matin là, pour...
Bon, je voulais savoir, au niveau des manteaux, vous vous préparez, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui, justement, ont des manteaux ou même envie d'aller en acheter un pour c'est ça pour moi, Noël, c'est ça, c'est donner pour les autres qui en ont besoin. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous occupez aussi des enfants et des femmes et vous dites redistribuer, c'est ça, pour les manteaux?
Ben, c'est ça, c'est pas on reçoit des manteaux, mais chez nous, à la Maison du Père, c'est strictement les hommes de 25 ans et plus. Toutefois, si les gens, c'est sûr que si les gens font le ménage de leur garde-robe, commenceront pas à aller dans trois organismes. Donc, souvent, on reçoit des hommes et nous, on fait le tri, on va les référer.
Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Ah, des couvertures, des... » Qu'est-ce qui vous manque?
Non, les couvertures et les...
Ça, c'est correct?
Non, ça, les couvertures, ben pour les lits et tout ça, mais on n'est pas un organisme qui va fournir les couvertures et les sacs de couchage parce que notre mission à nous, c'est d'amener les gens à l'intérieur de nos murs. On ne veut pas qu'ils restent à l'extérieur.
Mm-hmm.
Mais les couvertures pour le lit, oui.
C'est ça pour le lit. C'est ça
pour les lits, on en aurait besoin. Les manteaux et les bottes, c'est continuel.
Alors, continuel, donc si on a des choses à donner, c'est le temps de le faire.
Oui, des chandails chauds, des bas.
Je vous pose la dernière question. Je suis sûre que la réponse, ça va être à la négative, et c'est sûr. L'hiver, pour vous, c'est plus difficile?
C'est un autre... Les hommes, c'est sûr, surtout la période des fêtes, c'est très difficile pour ces gens-là parce que ces gens-là ne sont pas nés dans l'itinérance. Ces gens-là ont une famille.
Mm-hmm.
Des fois, ils sont souvent... la majorité ont brisé les liens avec cette famille-là. Donc, c'est très, très difficile, cette période-là. Donc, on essaie du mieux possible de leur mettre un peu de joie dans le cœur, là, mais en plus du froid, il y a ce froid-là là, qui les envahit.
Oui, le froid de l'âme, quoi.
Oui.
La solitude.
C'est très difficile.
Merci beaucoup, Madame Dubois. Merci.
Ça me fait plaisir.
Je me souviens. souvenais plus de quoi ça avait l'air. Je me souvenais plus que c'était aussi frette. Comme j'ai les couilles à mobilette. Hey, y avait moins de monde sur les trottoirs. C'est une bonne journée pour les taxis. Puis mon coloc est en calvaire. Travail dehors, après-midi. Tombé 24 pouces. Mon chum est pris dans la tempête. Allez, faut qu'on le pousse. Puis mettez-vous quelque chose à la tête. J'ai pensé que pièce c'est écrit sur la glace. Rendu au printemps, la dette est effacée. On aura plus d'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va crever en attendant l'été. On va crever en attendant l'été. Hey! Jamais la météo. Oh, y a ben plein de monde sur les trottoirs. C'est une bonne journée pour les taxis. Puis mon coloc est en calvaire. Travaille en dedans, après-midi. Je chaufferai le soleil. François a sorti sa moto. Y a ben ça Montréal, mais il s'en va pareil. Va faire un tour à Mexico. J'ai mon petit pierre, c'est écrit sur la glace. Il est parti avec les anges d'enfer. On n'aura plus d'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va crever en attendant l'hiver. On va crever en attendant l'hiver. Hey! Une bouteille de rhum. Oh, j'y ai passé 10 piastres, c'est écrit sur la glace. Il est parti avec les anges d'enfer. On n'aura plus d'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va crever en attendant l'hiver. On va crever en attendant l'hiver. Hey!
Cool, qu'on va crever en attendant l'hiver. J'espère que cette émission vous a donné des bonnes adresses, des façons d'agir aussi. On a vu donc avec notre médecin, Dr Rostigui, que c'est important, le vaccin. Les vitamines, bon, il n'y croyait pas. Je pense que plusieurs médecins comme ça, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais bon, lui, il dit qu'il n'y a pas eu de preuves scientifiques que ça fonctionnait. Boire, c'est important. Au niveau des gouvernements, eh bien, c'est sûr que les gens en mobilité réduite, ils en arrachent beaucoup. Et Linda Gauthier nous disait que le fait de sortir l'hiver, c'est terrible. Tout est long, tout est difficile. Il y a véritablement de l'isolement. Il y a véritablement un son de cloche qui a été donné par Linda Gauthier de dire « Faites attention, s'il vous plaît, déblayez les trottoirs. Il lui arrive parfois de ne pas sortir parce que là où elle va aller, c'est pas dégagé. Et en plus, c'est catastrophique complètement qu'on a appris que le loisir, manger, c'était devenu un loisir. Donc, c'est vrai que ça l'est, là, mais je veux dire, quand c'est tout simplement les trois repas par jour, on parle pas de la même chose. Là. Alors, messieurs, mesdames qui sont au gouvernement, faites quelque chose. Parlez-vous au niveau du transport, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir. Et important aussi, au niveau de l'environnement, Équiterre, il y a une liste sur leur site à consulter. Hein, la facture du chauffage est la plus salée. C'est aussi qu'on n'aime pas ça, recevoir ça, après les fêtes, souvent. Et il y a des moins 15, moins 20. Il faut bien avoir chaud dans nos maisons. Mais il y a des trucs à faire pour pas... pour économiser, et ça, c'était vraiment très intéressant à suivre. Et puis, les itinérants, itinérantes, je le dirais, parce qu'il y a beaucoup de femmes, et c'est moins su, moins connu, spécialement à Longueuil, où il y a énormément de femmes itinérantes, malheureusement, et les gens sont dans la rue. Pensez-y, vous avez 2-3 manteaux qui traînent, là, des bottes, qui sont chaudes, puis... vous êtes un petit peu trop gâtés, pensez aux autres, s'il vous plaît. Alors, l'hiver arrive, C'est un redout aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise, mesdames, messieurs. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions, aux questions de Sophie du 24 novembre. Un grand merci à mon équipe, Christiane Campagna, et responsable de la recherche de cette émission, la réalisation Jean-Sébastien La Liberté, et aux médias sociaux, Claudia Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye et prenez soin de vous.